Physique, 1er mars 1983 et 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Nous avons l'Esprit Saint, Père de nous, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame, notre Saint-Joseph.
Priez pour nous.
Nous allons entrer un tout petit peu plus, si vous voulez, dans ce problème de l'individuation, parce que, de fait, c'est un problème difficile et important. Et puis, c'est le premier moment du passage, ce que je crois très important à voir, qu'on n'a pas suffisamment montré dans la scolastique, le passage du diesti. C'est ça qui m'intéresse le plus au point de vue philosophique. Hein, pour tous. Le tiesti, c'est le principe, du moins, l'interrogation du tiesti. À l'interrogation du tiesti, on saisit un principe propre. On saisit comme principe. Et le pons n'est pas. Comment le pose n'est pas à l'origine d'une induction. L'interrogation diesti est à l'origine d'une induction qui nous permet de découvrir le principe propre. L'ousia. Tandis que le pose, le comment, c'est toujours quelque chose de concret. Un concret, du reste, a des modalités différentes, on verra, à des niveaux différents, je veux dire. Un concret qui est ou le concret existant, ou quelque chose de beaucoup plus subtil. Et alors, on se demande quel est le pos de cet ousia qu'on a saisi dans les réalités physiques. Il est évident que la première réalité physique dont on est parti, c'est l'homme, c'est Pierre. L'homme existant, c'est Pierre, l'homme concret. Les castanes. Les castanes, c'est Pierre. C'est cet individu, c'est celui-là. C'est cet homme concret. C'est l'être concret existant. La réalité physique existante. Alors, ce passage est quand même très important. Comment se fait ce passage? Et comment se fait cette nouvelle analyse, c'est pas une analyse, c'est pas une synthèse. Vous voyez, c'est là où on prend analyse et synthèse, c'est un peu trop tard, hein, parce que c'est pas tout à fait ça. Jamais Aristote dit analyse et synthèse, hein, jamais. Il faudrait voir historiquement à quel moment c'est apparu. C'est toujours intéressant ces choses-là, parce qu'alors on les répète après indéfiniment. Esprit de synthèse, esprit d'analyse, ça fait deux espèces d'esprit. Moi, je crois que c'est assez gros. L'analyse, très bien, on voit très bien ce que c'est que l'analyse. Et puis à partir de l'analyse, on revient à la réalité. Et ce retour à la réalité nous permet de saisir la manière dont ce principe saisi dans la réalité, de fait, existe. C'est le donné, si vous voulez. C'est le donné, mais c'est le donné, non pas vu dans une perspective positiviste, mais le donner vu dans une perspective intelligente, dans la lumière du principe propre. Dans la lumière du principe propre qui est l'ousia ici, je saisis ce qu'est cet homme concret, l'être concret. On aime le lire, l'être concret. Alors Pierre, les castors, cette réalité existante, c'est son pose. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas d'une description, Et c'est ça qui est intéressant à voir si on essaie de comprendre. On est parti de la réalité existante. Cette réalité existante est complexe. On peut la décrire. On décrit la réalité existante avant l'analyse. Une fois que cette réalité existante suscite en moi une interrogation, que je saisis l'interrogation et que je saisis le principe propre, je peux revenir à cette réalité. Vous voyez, il y a deux retours à la réalité. Au fond, on revient tout le temps à la réalité. C'est peut-être ça qu'on n'a pas suffisamment compris. On ne quitte pas la réalité. La réalité, au point de départ, c'est ce que je décris. Je décris cette réalité telle qu'elle est. Je décris Pierre tel qu'il me semble que c'est Pierre, à la différence de Pierre, de Jacques et de Jean, c'est pas tout à fait le même. Hein. Il y a quelque chose de particulier. Je décris cette réalité. Je la décris. À partir de cette description, je peux interroger. Dès que j'interroge, je peux analyser. Donc l'interrogation. J'analyse. J'ai la possibilité d'analyser. Mais vous voyez bien que pour découvrir le principe propre après l'interrogation du TST, je reviens à la réalité. Donc, un, deux. Une fois que je saisis le principe propre, je reviens à la réalité encore pour saisir. Donc c'est trois. Cette même réalité est regardée de trois manières différentes. Et plus, elle sera regardée d'une quatrième manière différente. Jugement de sagesse. Ça, je crois que c'est très important de le comprendre. Parce que si on ne voit pas ça, on ne saisit pas comment la démarche philosophique demeure toujours en contact avec la réalité existante. À la différence de la logique, elle demeure toujours en contact avec la réalité. Ici, ceci est, où je suis, c'est en temps. Il s'agit de l'homme, il s'agit de Pierre. Pierre dit je suis. Alors s'il s'agit donc du je suis Descartes, qui n'est pas ergo sum, mais qui est je suis que je décris. Premier moment, description. Cette description suscite une admiration, possibilité d'une interrogation. Cette interrogation, je ne peux y répondre qu'en revenant à cette réalité. Je saisis alors le principe propre dans cette réalité. Et une fois que je saisis ce principe propre, je reviens à cette même réalité. Troisième moment, je reviens pour une pause. Et comment ce principe-t-il existe-t-il ? Vous avez donc trois regards différents sur la même réalité existante. Et ce troisième regard, c'est le regard qui me permettra de saisir cette réalité dans sa modalité propre d'existence. C'est-à-dire de saisir son individuation. L'individuation est donc à ce niveau-ci. Ce n'est ni un, ni deux, c'est trois. Alors, si vous dites que l'individuation est un principe, c'est là où tout est faussé. Parce qu'alors, vous essayez de redécouvrir une induction, ça peut être autrement. Alors que l'individuation, vous ne la saisissez pas du tout par une induction. Vous l'essayez directement dans l'être concret. Ceci, c'est pour bien situer. Hein. C'est très important de situer un problème. Alors, voyez dans page 433, dans l'être premier, alors, c'est intéressant de voir comment, de fait, le problème, j'en ai dit un mot hier, je ne reviens pas là-dessus, je vais tout simplement regarder avec vous ce que représente pour saint Thomas, parce que je crois que c'est ce qui nous intéresse spécialement, Don Scott et saint Thomas. Il faut au moins avoir touché ce problème, avoir compris un tout petit peu le problème qui se pose au plan théologique est comment nous pouvons alors saisir cela. Sans reprendre ici une enquête, donc l'enquête au point de vue théologique, rappelons seulement la manière dont saint Thomas, puis Don Scott, Suarez et Jean de saint Thomas ont exposé ce problème dans leur perspective théologique. C'est ça qu'on a toujours oublié. Saint Thomas est un théologien, Don Scott est un théologien, Suarez veut être un philosophe sortant du théologien. Et Jean de Saint-Thomas, qui est lui dans la ligne de Saint-Thomas, au fond, fait la même chose. La philosophie de Jean de Saint-Thomas, c'est une philosophie qui sort d'une théologie. Cela nous aidera à mieux comprendre comment nous-mêmes pouvons ici poser le problème au niveau métaphysique, au niveau philosophique. Saint Thomas, en théologien, traite du principe d'individuation, à la fois pour mieux saisir ce qui fait que l'individu est individu et pour expliquer la connaissance que nous pouvons en avoir. Ceci spécialement pour mieux contempler le mystère de Dieu, de sa providence et le mystère du Christ, ce que j'ai vu hier avec vous. Alors, je vais simplement citer quelques textes de saint Thomas pour que vous puissiez mieux saisir. Dans son commentaire du De Trinitate de Boès, donc saint Thomas qui commente le De Trinitate de Boès, qui rassemble des éléments déjà apparus dans le DNT Essentia et le commentaire des sentences, saint Thomas aborde ainsi le problème, après avoir montré dans une série d'objections dont deux invoquent le philosophe, donc Aristote, et la diversité numérique, donc on va montrer que la diversité numérique ne peut provenir des accidents. Elle n'est pas une simple distinction accidentelle. Pierre est distinct de Jacques, pas seulement par ses accidents. Autrement dit, l'individu n'est pas une réalité accidentelle. Il n'est pas accidentel que je sois un individu. C'est une réalité substantielle et personnelle. Je suis individu en tant que personne, je suis individu en tant que substance. C'est bien évident. Ce n'est pas uniquement parce que j'ai des yeux bleus que je me distingue de Jacques. Non. Ça, c'est tout à fait secondaire. Vous voyez ? Toutes les distinctions accidentelles ne peuvent pas rendre raison de l'individu. Parce que l'individu est plus qu'une somme d'accidents. Elle n'est pas une simple distinction accidentelle, elle est plus profonde et plus enracinée. Il oppose à cette théorie, donc ça c'est très ancien, de considérer que l'individu c'est simplement une série d'accidents. Occam redira la même chose. Et ici, saint Thomas cite tout simplement quelqu'un, c'est un peu le point de vue logique, si vous voulez. Il oppose à cette théorie une autre série d'arguments qui commence par invoquer l'opinion de Porphyre. Pour ce dernier, l'individu résulte de l'assemblage, collectio, des accidents qui ne peuvent se trouver dans un autre. Voilà situées les deux positions philosophiques les plus opposées concernant le problème de la structure de l'individu. On voit donc la collection des individus, la collection des accidents, ou tout simplement un accident particulier. On voit bien la difficulté du problème, c'est sûr, surtout du côté théologique. Nous avons tous la même nature. Nous avons tous la même nature, la nature humaine. Donc, spécifiquement, nous sommes identiques. Et nous sommes tous des individus. Alors, cette distinction individuelle, elle s'enracine dans quoi ? Est-ce qu'elle s'enracine dans la distinction de la nature au niveau spécifique ? Alors, à ce moment-là, chacun d'entre nous, nous sommes une espèce, comme les anges, la gabriélité. Nous sommes une espèce, nous sommes Gabriel, nous sommes pas seulement Pierre, Jacques et Jean, mais nous sommes Gabriel, nous sommes Raphaël. Il est unique, Raphaël, dans son espèce. Et Gabriel est unique dans son espèce. N'oubliez pas que les théologiens parlent des anges, hein, et parlent toujours de l'homme, un peu en référence avec les frères aînés. Et les frères aînés, c'est les anges. Hein, nos frères aînés, on n'y pense pas assez souvent. Nos sont frères aînés. Eh bien, nos frères aînés ont ce privilège énorme d'être uniques dans leur espèce. Tellement plus agréable. Il y aurait beaucoup moins de conflits. unis dans notre espace. On est unis, personne d'autre n'a dans mon espèce. Tandis que là, j'ai oublié de dire, mais mon voisin, il a la même espèce que moi. C'est un peu gros de dire, ah, moi, j'ai une espèce quand même un peu supérieure, parce que je suis né 10 ans avant. Donc, je suis une espèce, il y a eu un dégradé. C'est une espèce de... Ou bien, au contraire, l'inverse, le plus jeune dira, il est né 10 ans avant, il y a eu une évolution de lui. C'est une autre espèce, c'est quelque chose de tout à fait différent. On est mieux, on est mieux. On voit bien là donc la difficulté du problème. Vous voyez, problème de la nature et de l'individu. C'est comme ça que ça s'est posé pour le théologien. On est tous uniques dans. C'est la question de, vous voyez, savoir si notre âme spirituelle est la même pour nous tous. Très grave problème. Est-ce que notre âme spirituelle est la même spécifiquement pour nous tous? Et par le fait même, est-ce que notre nous, notre intelligence, est la même spécifiquement pour tous? Ou bien il y en a qui ont reçu une intelligence des points de départ beaucoup plus lumineuse. Et puis Dieu était fatigué, alors il a donné un dernier un petit bout du tout. Fin d'une série. Vous êtes la fin d'une série. Non, moi je suis le premier d'une série. Et là, ça va. L'intelligence est encore vivante. Mais après, fou, plus grand chose. Petit coup de pouce. Et on va très bien dans un atelier, ça peut se faire comme ça. Dernier de la série, il en reste encore un tout petit peu. Pour les gâteaux, hein, encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu quelque chose. Alors, est-ce que notre intelligence est la même pour chacun d'entre nous? Est-ce que notre volonté est la même spécifiquement? C'est la grosse question de l'individu, ça. On est habituel, on ne fait pas grande attention. On est tous la même espèce. Je comprends que ça pose un problème pour le théologien. L'individu et l'espèce. Et vous retrouvez le même problème d'une façon toute différente avec l'évolution. C'est le problème de l'individu et de l'espèce. On voit bien donc la difficulté du problème, car certaines raisons inclinent à affirmer que le principe d'individuation doit s'enraciner dans la matière. D'autres inclinent à affirmer que seule l'originalité des accidents peut l'expliquer, puisqu'il ne s'agit plus d'une distinction spécifique, substantielle, mais numérique, et donc accidentelle relativement à l'espèce. Donc vous voyez tout de suite trois situations. Vous pouvez tout de suite mettre. Vous êtes tenté de dire que le principe d'individuation touche quelque chose de spécifique. Ça, c'est la tentation. On regarde le modèle des anges, on dit qu'après tout, oui, il y a une telle différence entre les individus. C'est la différence entre les chiens, un petit chien, une espèce particulière, puis le gros chien. Quand ils se rencontrent, et s'ils se rencontrent sur la même ligne, n'est-ce pas ? Non, pas tout à fait. L'espèce canine, c'est comme... Mais il y a encore beaucoup plus de variété chez l'homme. Beaucoup de variété chez l'homme. C'est la même espèce. Où est-ce qu'il y a vraiment une distinction spécifique ? Voilà, l'interrogation. Le théologien farouche. J'ai déjà dit, c'est la même espèce. Je comprends que le philosophe peut se poser la question. Le théologien, il part d'en haut, il dit la différence entre les anges et les hommes, c'est que les anges sont uniques dans leur espèce. Gabriel, Raphaël, uniques dans leur espèce. Tandis que les hommes, ils sont uniques dans leur nature, nature humaine, qui sont dans la spécificité de la nature humaine. Donc les individus ne sont pas une distinction spécifique. Ça va assez vite. Alors, on va essayer de trouver. Deux. La différence accidentelle est uniquement accidentelle. La différence, je veux dire, individuelle est accidentelle. La collection des accidents. C'est l'ensemble des accidents qui fait un équilibre différent. Troisièmement, c'est beaucoup plus qu'accidentel, ça s'enracine dans quelque chose de substantiel. mais dans quelque chose de substantiel, un principe substantiel qui est matériel. Ça a l'immense avantage, vous voyez, cette troisième position, elle a l'immense avantage de montrer que la distinction des individus n'est pas qu'accidentelle. Elle est substantielle. Et d'autre part, qu'elle n'est pas spécifique. Elle est matérielle. Mais d'un matériel qui touche les fondements de mon être. Puisque c'est la matière. Vous avez les trois positions, et je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Historiquement, il y a trois positions. Trois positions qu'on comprend très bien comment on arrive à ces trois positions. Alors, Saint Thomas se situe donc à travers ces diverses positions. Il les donne dans son commentaire du De Trinitate de Boèse. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à ce problème, ça vaut la peine, hein, c'est un problème intéressant. L'être concret, de comprendre ce que c'est que l'être concret. Saint Thomas, dans son argumentation, dépasse cette opposition en montrant ce qu'il y a d'exact dans chacune des positions, mais de trop partiel de part et d'autre. Il commence par rappeler que pour résoudre la question, il faut savoir quelle est la cause de la triple diversité dont on parle. Comme, je cite, c'est de Saint Thomas, donc c'est dans l'exposition sur le De Trinitate, question 4, article 2. Comme dans l'individu composé dans le genre de la substance, il n'y a que ces trois, matière, forme substantielle et composée. Il faut que l'on trouve dans l'un de ceux-ci la cause de cette diversité. Il faut donc savoir que la diversité selon le genre se ramène à la diversité de la matière et que la diversité selon l'espèce se ramène à celle de la forme, mais que la diversité selon le nombre se ramène en partie à celle de la matière, en partie à celle de la forme, et en partie à celle de l'accident. Vous voyez bien. C'est pas une solution, mais vous voyez, pour un principe, hein, cherchez un principe là-dedans. Tandis que si vous êtes dans le pot, ça va très bien. C'est évident que l'individuation, c'est quelque chose de très complexe. Tous les individus sont complexes. Alors, je comprends qu'on peut chercher en partie, vous voyez. Et il faut donc savoir que la diversité selon le genre se ramène à la diversité de la matière, que la diversité selon l'espèce se ramène à celle de la forme, mais que la diversité selon le nombre, alors, la diversité selon le nombre, hein, comprenez bien, c'est vient des pythagoriciens, ça. Chaque nombre est indivisible. Alors, c'est la diversité selon le nombre. Ça veut dire la diversité de l'individu. Vous êtes un numériquement. C'est pour ça qu'on appelle le chiffre de l'individu, hein, le chiffre de chaque individu. C'est vrai, c'est une diversité. C'est très long, ça vient des pythagoriciens, ça, c'est un langage pythagoricien. Chacun d'entre nous, nous avons un nombre unique. Alors, ce privilège, donc nous sommes irremplaçables. C'est très heureux. Nous ne sommes pas une pièce remplaçable. Ça, c'est la série. Mécaniquement, on peut avoir des pièces remplaçables. Mais tandis que l'individu n'est pas une pièce remplaçable. Vous ne pouvez jamais être remplacé par un autre individu. C'est extrêmement reposant, ça. Jamais. C'est juste l'inverse, si vous voulez, de la collectivité. On dira, ah, il y en a un qui s'en va, on va mettre un autre pion. Non. Philosophiquement parlant, c'est impossible. Philosophiquement parlant, chaque individu est unique. C'est très très important pour comprendre le respect de l'individu. Vous ne pouvez pas changer. C'est toujours la tentation collectiviste, socialisante. C'est de voir dire on peut se remplacer un pion par l'autre. Non, c'est faux. C'est un manque de respect. Et on le sent très bien. Chacun est unique. C'est ça la très grosse difficulté. Hein. Chacun est unique. Alors, voyez ce que souligne saint Thomas. Mais la diversité, selon le nombre, se ramène en partie à celle de la matière, en partie à celle de la forme, en partie à celle de l'accident. Donc saint Thomas répond en normand, tout simplement. Vous avez des bouillons, eh bien moi je vais prendre tout. L'individu, oui, il y a quelque chose de la matière, il y a quelque chose de la forme, il y a quelque chose de l'accident. C'est très joli comme réponse. Hein, vous voyez que cette réponse, ce n'est pas du tout un principe. Au moins, on peut sentir ça. Si c'était un principe, oh, c'est net, ça se ramènerait au genre, ça se ramènerait à la forme, ou ça se ramènerait, l'accident, il n'y a pas de principe, mais donc ça se ramènerait ou à la forme ou à la matière. Puis saint Thomas expose comment la matière réalise la diversité dans le genre et la forme la diversité dans l'espèce, pour aborder ensuite la question qui nous intéresse spécialement, la diversité propre aux individus d'une même espèce. S'appuyant sur l'affirmation d'Aristote, saint Thomas déclare, c'est intéressant que c'est dans la ligne du réalisme d'Aristote, saint Thomas déclare, comme les parties du genre et de l'espèce sont la matière et la forme, ainsi les parties de l'individu sont cette matière et cette forme. C'est pourquoi la diversité de la matière ou de la forme, prise absolument, réalise la diversité dans le genre ou dans l'espèce. Ainsi, cette forme et cette matière réalise la diversité numérique. Or, aucune forme en tant que telle n'est celle-ci par elle-même. Vous voyez, cette question que donne saint Thomas, c'est une première approche, on voit très bien. Hein. C'est pas du tout une induction, c'est une approche. On élimine les éléments et on dit que la complexité de l'individu, c'est quelque chose de très difficile. Et saint Thomas précise, je vous lis encore ce texte, « Je dis, Dico, c'est rare que saint Thomas dit ça, il le dit quand il veut dire quelque chose de nouveau. Dico, je dis, en tant que tel, à cause de l'âme rationnable, qui d'une certaine manière est par elle-même ce quelque chose, oqualiquid, mais non pas en tant que forme. La forme devient cette forme, du fait qu'elle est reçue dans la matière. L'âme qui informe la matière, l'âme créée par Dieu qui informe la matière, eh bien, dès que cette âme informe la matière, elle devient cette âme. Tout de suite, elle est reçue. Et du fait même qu'elle est reçue, elle devient cette âme. Donc la forme devient cette forme du fait qu'elle est reçue dans la matière. Mais comme la matière en elle-même est indistincte, il est impossible qu'à l'individu la forme reçue, si ce n'est en tant qu'elle est susceptible de distinction. Vous voyez le raisonnement. La matière par elle-même est indivisible. C'est vrai, la matière comme coprincipe. La matière comme coprincipe,
le point de vue de la matière, la substance matière. La matière comme coprincipe est indivisible.
Ça ne peut pas être autrement. Un principe est toujours indivisible. Donc ce qui est indivisible ne peut pas diviser. Donc la forme en tant que reçue, donc l'âme humaine, l'âme spirituelle, en tant que reçue dans la matière, est individuée, elle devient cette forme. Or, elle ne peut pas être individuée, c'est-à-dire devenir cette forme, uniquement par la matière. Il faut donc ajouter quelque chose à la matière. Il faut ajouter ce qui permet à la matière de distinguer. Qu'est-ce qui va permettre à la matière de distinguer la quantité? Évidemment, ça présupposerait toute l'analyse philosophique de la quantité. Nous la verrons ensuite. Mais c'est présupposé ça. Si ce n'est en tant qu'elle est susceptible de distinction, car la forme n'est pas individuée par le fait qu'elle est reçue dans la matière, si ce n'est pour autant qu'elle est reçue dans cette matière distincte et déterminée à dic et nunc. Hic et nunc, c'est-à-dire à ce moment, à cet instant, il y a ce lieu, adic et nunc. Or, la matière n'est divisible que par la quantité. C'est la quantité liée à la matière qui apporte la divisibilité. C'est pourquoi le philosophe dit au premier livre des physiques que si la quantité est enlevée de la substance, si la quantité est enlevée, la substance demeurera indivisible. La substance par elle-même est indivisible. La quantité apporte la divisibilité. C'est pourquoi la matière devient cette matière et elle est désignée comme telle selon qu'elle est sujet des dimensions. Alors nous avons là un petit terme très précis de saint Thomas, c'est la matière signata. La matière signata, expression classique de saint Thomas. La matière signata, c'est la matière qui implique la quantité. La matière sans la quantité est indivisible. Elle n'est pas signata. Du reste, la quantité sans la matière est invisible. C'est un principe. Ça, l'intelligence saisit, ce co-principe. Elle est un co-principe, donc elle est absolument invisible. Qu'est-ce qui est observable? C'est la matière liée à la quantité. La quantité seule est mesurable. La matière comme telle n'est pas mesurable au plan philosophique. Hein, comprenons bien. La matière au plan philosophique n'est pas mesurable. Elle est saisie par l'intelligence comme un co-principe. Tandis qu'au contraire, la matière, elle est divisible. La quantité est divisible. Et par le fait qu'elle est divisible, elle rend la matière signata. Je la désigne. Cette matière, c'est une matière divisible. C'est pourquoi la matière devient cette matière et elle est signata, donc elle est désignée, selon qu'elle est sujet des dimensions. C'est-à-dire selon qu'elle implique la quantité. La quantité seule implique des dimensions. La matière n'implique pas de dimensions. Or, ces dimensions peuvent être considérées de deux manières. C'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez l'analyse que fait saint Thomas. C'est intéressant comme procédé. Hein, si vous cherchez, quelle est la méthode qu'il suit? Ce n'est pas du tout l'induction. Ce n'est pas la description. C'est une analyse des différents éléments qui sont nécessaires pour être en face d'un être propre. Qu'est-ce qu'est le pose de la substance? Vous voyez donc, il y a matière plus quantité. La matière est au niveau substantiel, mais elle est indivisible. Donc, elle est fondamentale, mais ce n'est pas elle qui proprement individu. Ce qui proprement individu, c'est la matière liée à la quantité, c'est-à-dire une matière signata. Une matière signata, c'est une matière qui implique les dimensions. Elle est mesurable. Les dimensions, c'est ça, les dimensions. Quelque chose de mesurable. C'est une quantité qui a un poids, c'est une quantité qui a telle longueur. Elle implique des dimensions. Alors, or, ces dimensions peuvent être considérées de deux manières. D'une part, selon leur détermination, et je dis qu'elles sont terminées selon une mesure et une figure déterminée. Et ainsi, elles se rangent dans le genre de la quantité comme des êtres parfaits. Vous avez une matière qui implique la quantité, cette quantité est parfaitement déterminée. Donc, elle a une figure. La figure, la figura, pour saint Thomas, c'est la qualité dans la quantité. C'est donc une quantité qui est parfaitement terminée. Une quantité parfaite, elle est terminée. Considérées ainsi, elles ne peuvent être principes d'individuation. Car, puisqu'une telle détermination ou une telle termination des dimensions varie fréquemment dans l'individu, vous grossissez, vous maigrissez. Est-ce que votre individuation a changé ? Non, elle n'a pas changé. Vous avez 5 kilos de plus ou 5 kilos de moins après le carême. Est-ce que vous avez... Le carême va changer les individus. Le carême va convertir les cœurs, mais pas les individus. Les individus restent les mêmes. Ils sont allégés. Alors, allégés, c'est un peu de quantité. Alors, la quantité allège, la quantité diminue le poids, diminue, ça peut même quelquefois aller assez loin, mais ça ne change pas l'individu. Un individu squelettique ou un individu grassouillé, c'est le même individu. C'est au point de vue proprement, au point de vue figura, c'est différent. Vous savez le fameux exemple qui s'était passé au Texas, hein, le fameux exemple des charismatiques, je vous ai raconté, c'est, pour l'individu c'est merveilleux ça. Alors, il y avait chez les charismatiques, dans l'église charismatique, c'était dans une église protestante du reste. Et ce que je vous raconte, il y a eu un témoin qui me l'a raconté. C'est le cher oncle de notre frère Wanden, n'est-ce pas ? Et donc c'est mon neveu. Et il m'a raconté cette histoire, cette chose très très étonnante. Il était tout stupéfait, il m'a demandé du reste au point de vue théologique ce que je dirais. Et heureusement, j'ai dit que je ne pouvais rien dire au point de vue théologique. C'était dans une église protestante, tout d'un coup, quelqu'un se sent inspiré. Je suis inspiré. Que tous ceux qui sont malades s'avancent. Je vais pouvoir imposer les mains et les guérir. Alors, il y a eu toute une procession, vous comprenez, à ce moment-là. Une procession de tous ceux qui sont à la piscine de Petsetta. Procession. Et le dernier de la procession, c'était quelqu'un qui était un petit tonneau, ambulant. Mais vraiment un tonneau ambulant. Tout le monde le regardait. Et là, comme il était étonné la fin de la procession, c'est évident, tous les regards regardaient. Alors, elle a posé les mains en priant le Seigneur, en invoquant le Saint-Esprit. Le malade dégringolait par terre, puis se relevait guéri. Chaque fois, c'était la même chose. La puissance s'exprimait et tombait par terre. Alors, tout le monde s'attendait. Qu'est-ce qui va se passer ? On en voit très bien. J'aurais été là aussi. On nous a dit, attendons la fin. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il est arrivé, a posé les mains, il est tombé par terre. Il a maigri de 30 kilos. C'est excellent, oui, pour la quantité, c'est très bien, pour l'individu. Hein. C'était le même individu, il a maigri de 30 kilos. Où est-ce qu'ils sont passés ces 30 kilos ? C'est quand même quelque chose, ça. C'est quand même... Alors, lui posait la question, est-ce que c'est du Saint-Esprit ou est-ce que c'est le démon ? Comment on va savoir ça ? Est-ce que c'est un prodige ? Je vous affirme, ça s'est passé comme ça. Parce qu'il y a eu un témoin oculaire qui me l'a raconté. C'est quand même quelque chose d'assez curieux. Alors vous voyez le point de vue de la quantité. C'est ça que je me dis, le point de vue de l'individu. Je crois qu'il était exactement le même individu. Il était guéri. Et son pantalon... Il y avait quelque chose de particulier. Ça, c'est étonnant, ça. Retenez, analysez-le théologiquement. Le père Laurentin, devant ça, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que là, il serait bien obligé de dire, ben oui, avant et après. Alors, est-ce que le langage du Saint-Esprit est différent au Texas ? Ce qui est possible, hein. Parce que je crois que le langage du Saint-Esprit est extrêmement souple. Le Saint-Esprit emploie des charismes très différents dans chaque pays. C'est sûr. Quand un pays est sous l'influence de Descartes, le Saint-Esprit doit s'adapter. Quand un pays est sous l'influence, non pas du tout de Descartes, mais à la manière du Texas, alors, là, vous savez, le carrefour au Texas, hein, influence espagnole, et puis le point de vue de l'Amérique. Mon neveu me disait qu'il aimait mieux lire, ça m'a beaucoup étonné, il aimait mieux lire les livres en espagnol que les lire en anglais. qu'il se sentait plus proche au Texas. Plus lire en espagnol, plutôt qu'en anglais. C'est très curieux, ça. Alors, vous voyez, le langage du Saint-Esprit, hein, quand il... ces deux courants assez différents qui sont là, et maigrit 40 kilos. Alors, les 40 kilos, selon le langage de Saint Thomas, c'est la quantité désignée. 40 kilos, hein, c'est, ou 30 kilos, c'est quantité désignée. La quantité absolument parfaite. On peut la peser. Peser avant le carême, après le carême. On dira que la communauté Saint-Jean est charismatique, puisqu'ils ont maigri de temps. Mais le charisme, c'est de maigrir subitement et en un instant. C'est ça, le charisme est là. Parce que si une cure d'amaigrissement que représente le jeûne, c'est pas charismatique. Alors, je continue. Parce que c'est important d'avoir un petit fantasme. Et puisqu'une telle détermination des dimensions varie fréquemment dans l'individu, donc c'est à cause de ce fréquemment dans l'individu, je pensais à ce changement de poids, il s'ensuivrait que l'individu ne demeurerait pas toujours le même numériquement. Le même individu demeure toujours numériquement le même, mais il peut changer de poids avec une rapidité extraordinaire. C'est plus facile du côté de la quantité que du côté de la qualité. D'autre part, d'une autre manière, on peut les considérer sans cette détermination. Alors c'est là l'abstraction assez curieuse. On peut les considérer sans cette détermination, dans leur seule nature de dimension. Bien qu'elles ne puissent jamais être sans une certaine détermination, comme la nature de la couleur sans la détermination du blanc ou du noir. Considérée ainsi, elle se situe dans le genre de la quantité comme quelque chose d'imparfait. Dans le genre quantité, là, vous voyez bien le raisonnement de saint Thomas, c'est très curieux, c'est un raisonnement qui est intéressant et qui n'est pas commode à comprendre. Alors vous avez le genre quantité. On comprendra mieux quand on aura dit la quantité. Je vais m'obliger d'anticiper un peu, c'est une manière d'entrer dedans. Vous avez dans le genre quantité, parfait, imparfait. Parfait, imparfait, les deux. Le genre quantité parfait, c'est les dimensions terminées. 30 kilos. Dimensions terminées. Ou la hauteur. 1m80, 2 mètres. Et les dimensions imparfaites, c'est lorsque justement ces dimensions ne sont pas terminées. Elles sont à l'état en puissance, dans un état virtuel. Eh bien, c'est proprement cette quantité imparfaite qui donne le nombre numérique, pas le nombre quantitatif, pas le nombre arithmétique, mais le nombre de l'individu. C'est cette quantité liée à la substance, liée, je veux dire, à la matière, cette quantité liée à la matière, qui n'est pas parfaite. C'est assez difficile à bien préciser et à bien comprendre, hein. Et c'est bien ce que saint Thomas nous dit, hein. C'est intéressant de saisir. Ensuite, on se demandera si nous pouvons maintenir ce que dit saint Thomas. Parce qu'il faut quand même faire une critique par rapport à ça. C'est intéressant, c'est très intéressant, on voit très bien comment saint Thomas s'est posé le problème. Donc, et c'est à partir de ces dimensions non terminées que la matière devient désignée. C'est net, hein. C'est à partir de ces dimensions non terminées que la matière devient signata, désignée, et ainsi individu, la forme, et ainsi à partir de la matière, devient individu, la matière devient signata, et ainsi individu, la forme, et ainsi à partir de la matière, est causée une diversité numérique dans la même espèce. La même espèce, nature humaine, l'individu va se préciser. Je termine. Il est donc évident que considérée en elle-même, la matière n'est principe de diversité ni spécifique ni numérique. Mais comme elle est principe de diversité générique en tant qu'elle est soumise à la forme commune, ainsi elle est principe de diversité numérique en tant qu'elle est soumise aux dimensions non terminées, c'est-à-dire la quantité. Quantité prise génériquement. Et ainsi, puisque ces dimensions sont du genre des accidents, la diversité numérique se réduit tantôt à celle de la matière, tantôt à celle de l'accident. Et ceci en raison des dimensions susdites. Les autres accidents ne sont cependant pas principes d'individuation, mais principes de connaissance de la distinction des individus. Donc, l'originalité dans la carte d'identité, l'originalité que vous avez, un nez aquilin, est-ce que ça fait partie de l'individuation ? Non. Ça fait partie de la manifestation, c'est très très net, de la connaissance que nous avons de l'individu. Les autres accidents ne sont cependant pas principes d'individuation, mais principes de connaissance de la distinction des individus. Et par là, l'individuation est attribuée aussi aux autres accidents. Donc, regardez bien la méthode, hein. Ce n'est pas une induction. Ce n'est pas une description. J'allais dire, c'est une méthode éliminatoire. C'est une réduction. C'est exactement une méthode réductive. Quels sont les éléments que je